Pour le deuxième numéro du podcast, ça me fait super plaisir d'être avec Myriam Leroy, déjà dans la vie de manière générale, mais sur le podcast aussi pour une série de raisons. La première, c'est que mine de rien, même si on la voit de plus en plus dans les médias, je pense pas que c'est déjà arrivé que quelqu'un ait pris le temps de faire une longue interview avec elle. Et bon, je pense que je suis assez bien placé pour savoir qu'elle a des trucs intéressants à dire. Et aussi parce que je savais que ça la stressait à mort.
À mort!
Qu'elle avait pas envie de le faire, qu'elle a pas envie qu'on travaille ensemble, et moi non plus d'ailleurs de manière générale, et que c'était peut-être la plus belle occasion que j'allais pouvoir avoir de voir qu'est-ce que ça ferait si on travaillait ensemble. Donc Myriam, merci d'avoir accepté.
Ah, grand plaisir.
Et t'as accepté, première question, t'as accepté un, pour me faire plaisir, deux, parce que tu pensais que ça pourrait être chouette, ou trois, parce que tu te sentais obligé?
Un peu de trois, et puis par orgueil aussi.
Par orgueil?
Ouais.
Et t'es super stressée.
Ouais.
Et pourquoi?
Je sais pas, j'arrive pas à identifier.
Est-ce que, honnêtement, je veux dire, t'es un peu la capitaine des gens cool, ou en tout cas, tu fais partie de l'équipe des gens cool de Bruxelles. Est-ce que c'est aussi parce que tu trouves qu'elles sont un peu la loose d'être dans le podcast de ton mec?
Peut-être.
Et tu penses que tu vas être jugée?
Dans un podcast d'humour.
Ben oui, on va.
Tu me défends d'être humoriste.
Ben oui, c'est ça. C'est Myriam qui a déjà dit les deux phrases, peut-être pour moi, les plus célèbres dans ma tête, c'est « Je n'aime pas l'humour ». Et si je vois ton spectacle encore une fois, je crois que je vais vomir.
Mm-hmm, ouais.
Et tu l'as vu combien de fois mon spectacle?
Je sais pas, 5 fois.
Ça va, si tu vomis qu'à la 6e, ça va encore.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, tu te défends d'être humoriste.
Mm-hmm, absolument.
Et c'est avec ça que tu gagnes ta vie maintenant?
Est-ce que c'est avec ça que je gagne ma vie? Bon, c'est en partie, oui.
On va en revenir, mais avant de parler de ce que tu fais maintenant, on va faire un tour un peu sur les choses qui te sont arrivées avant. À chaque numéro du podcast, je veux apporter quelque chose à boire que l'invité demande. Pour le premier numéro, c'était Cody. Il a demandé du jus de pamplemousse. Toi, je te l'ai même pas demandé et je t'ai apporté du
vin rouge.
Je pense pas m'être trompé.
On va faire un petit chin.
Ben oui, ambiance sonore.
Très années 80.
À fond. Il manque juste le petit fondu en étoile si on était avec des images. Première question... Le truc qui t'a fait le plus connaître dans ce que t'as fait, c'est Pure FM.
Ouais.
Avec les J'aime pas.
Avec les J'aime pas et aussi, je pense, avec le remplacement de Vanessa Clack pendant son congé de maternité à l'hiver 2011.
Donc Pure FM, bon, ça c'est avec les J'aime pas entre autres, ça s'est super bien passé pour toi. Le remplacement, tu t'es fait connaître et ça s'est fini de manière un peu abrupte, semi-abrupte. Et j'aimerais que tu nous racontes ta version, parce que de l'extérieur, ce qu'on a vu, c'est « Ah, Myriam est sur Pure FM, de coup, Myriam n'est plus sur Pure FM, Pure FM va devenir Énergie », ce qui n'a pas été le cas nécessairement, finalement. Ils ont gardé la même équipe, et on ne sait même pas, un, si tu es fâché contre eux, deux, s'ils sont fâchés contre toi. On a dit partout que c'était d'un commun accord. Donc voilà, est-ce que toi, tu es fâché contre eux? Est-ce qu'eux sont fâchés contre toi? Et raconte-nous ta version.
Je pense que personne n'est fâché contre personne. Je suis peut-être un peu triste de la manière dont ça s'est terminé. Comment ça s'est terminé? Eh bien, Pure FM a décidé de modifier son orientation. Ça, on l'a pu lire dans la presse, hein, pour des raisons d'audience. Pure FM faisait à faire la dernière vague d'audience, vague de sondage, 1,9% de part de marché.
Ironiquement,
c'est quand même assez peu.
Sauf si tu compares à Twiz, où là, c'est pas mal.
qui est aussi une radio pour laquelle j'ai bossé, donc ceci expliquant peut-être cela.
Mais depuis, l'ironie de la chose, c'est que depuis, il y a eu des nouveaux sondages qui sont sortis au mois d'août et sont remontés à 2,7.
Oui.
Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé tout ça déjà? J'imagine que c'est pas ce que tu voulais.
Terminer ma collaboration sur Pure FM?
Non, et le changement de...
Non. Moi, j'aimais bien cette radio telle qu'elle était et je trouvais qu'on pouvait faire des choses alternatives. C'était une alternative pas spécialement radicale ni pointue, mais c'était quand même une alternative. C'était une radio vraiment singulière. Je pense qu'elle l'est toujours. Mais voilà, ils ont fait des choix bien légitimes, certainement bien raisonnables. Moi, j'avais plus grand-chose à faire là-dedans. J'avais plus rien à leur proposer. Ils n'avaient plus rien à me proposer dans cette optique-là. Et voilà, nos chemins se sont séparés, tout simplement. Et je trouve ça dommage parce que j'aimais beaucoup cette radio, je l'aime toujours beaucoup, et j'aurais bien aimé continuer à bosser pour elle. Mais là, force est de constater qu'on n'avait plus rien à faire ensemble.
Et tu sens que tu marches sur des œufs quand tu racontes l'histoire? Que tu peux dire tout ce que tu penses ou tu essaies d'épargner un peu la chèvre et le chou? Parce qu'on sent que tu réponds quand même un peu comme une politicienne en campagne.
C'est une réponse de Normand et pourtant c'est la vérité. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de portes qui ont claqué. Moi, je m'entends toujours très très bien avec l'équipe. Je vais probablement faire des petits featurings dans l'émission du matin une fois de temps en temps.
Ouais. À partir de quand?
Je ne sais pas. Quand on m'invitera, mais
visiblement,
c'est prévu. Bah, ça va ressembler. Il y a un feuilleton radiophonique que je trouve très chouette, en fait, avec Sébastien Ministru, qui s'appelle Into the Pure. C'est lui qui écrit ça sur les coulisses de l'émission du matin avec la nouvelle équipe. Et bon, c'est un truc à la Ministru, un peu délirant. Et maintenant, il faut intervenir des guests. Il y a eu Laurence Bibo l'autre jour qui est venu faire un petit caméo. Et puis, il m'a proposé de le faire aussi bientôt.
Et avec la direction de Pure FM, ça se passe bien?
Je n'ai plus de nouvelles, donc oui, okay. Enfin, pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus chier chez un animateur radio ou télé?
La fausse bonne humeur.
Ouais?
La fausse bonne humeur, le côté familial, essayant de plaire à tout le monde, lisse, consensuel.
Bisous à toute la petite famille.
Bisous à toute la petite famille.
Est-ce que tu crois que ça peut des fois être bien quand c'est pas fake? Est-ce que tu crois que c'est pas fake et ça te tape sur les nerfs ou que c'est tout le temps fake?
Bah, moi, la bonne humeur, de manière générale, ça me tape sur les nerfs.
Même la genuine bonne humeur.
Mais qui en télé et en radio est réellement de bonne humeur et transmet réellement sa bonne humeur?
En radio, on marquerait, c'est dingue le nombre de personnes qui rigolent juste comme ponctuation. Il est 14h25.
Mais je comprends parce que dans l'émission On est pas rentré, je le fais aussi.
Ah, je le fais tout le temps aussi. Hein.
Je le fais
mais
aussi.
C'est de la grosse, c'est pas
c'est du réflexe. C'est du réflexe et c'est de l'angoisse, comme l'angoisse de la page blanche pour l'écrivain, c'est l'angoisse de l'onde blanche pour l'homme de radio.
Alors que c'est pas grave, un blanc. Il y a jamais personne qui a zappé sur un blanc.
Non, non.
Par contre, sur une parole...
Oui, ça c'est vrai.
Il y en a un chien qui a zappé. Tu ne conduis plus, est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie de parler ou tu préfères éviter de parler?
C'est un grand drame dans ma vie. Non, non, parlons-en.
Pourquoi tu conduis plus?
Parce que j'avais pour habitude de m'évanouir au volant, parce que ça me stressait.
Tu t'es déjà vraiment évanoui pendant que tu conduisais?
Oui, absolument.
Tu peux raconter?
Oui, Daniel, je peux raconter. Eh bien, j'étais sur l'autoroute, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 7-8 ans, et je dépassais un camion, et ce camion était vraiment long. Et j'ai commencé à stresser de plus en plus, puis mes oreilles ont commencé à se boucher, et puis mes doigts ont commencé à picoter, et puis un voile noir s'est jeté devant mes yeux. Et puis j'ai perdu connaissance. Mais heureusement que j'avais une copine à côté de moi qui a vu que ça n'allait pas, qui a donné un coup de volant et on a été s'échouer sur la bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin avec dans un bruit de crissement de pneus infernal et une odeur de plastique brûlé.
Et ça a été la fin de la conduite?
Non, non, parce que ça a été le début de la fin, parce que je voulais absolument conduire. En plus, on m'avait promis un contrat à la RTBF Radio si j'avais mon permis de conduire.
Sérieux?
Enfin, j'avais mon permis, mais si je conduisais. Donc pour moi, c'était important. Donc j'ai conduit pendant de nombreux mois avec un psy qui me disait « Allez, Madame Leroy, respirez, inspirez à fond, bloquez, soufflez. » Et on faisait des
psys. Il y a des psys de conduite?
Non, 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 c'était un psychologue comportemental. Parce que je souffrais de ce qu'on appelle des attaques de panique quand j'étais au volant. Et donc, quand j'étais avec ce monsieur à côté de moi, ça allait très bien, mais quand il n'était pas là, ça n'allait pas du tout. Et puis un jour, mes parents, voyant que je n'utilisais plus beaucoup ma voiture, elle était garée chez eux, ils l'ont revendue à un Albanais passant par là, pour la modique somme de 400 euros, alors que je venais d'acheter un autoradio qui valait 400 euros.
Donc, au moins... T'as fait de l'argent avec ça.
Oui, c'est une belle opération.
Donc finalement, ça marche, les conneries de cartes que les gens mettent dans ta vitre en disant « Nous
mais
sommes
oui,
intéressés par
cas,
votre
bagnole ». Mais oui, en tout cas, avec mes parents,
ça marche. Je crois que j'en aurai une collection d'à peu près 250 dans le fond de la voiture. Et finalement, pourquoi tu t'évanouissais au volant? Donc attaque de panique et agoraphobie.
Oui, c'est ça. Je suis agoraphobe depuis très longtemps maintenant.
Bon, tu dis que t'aimes pas l'humour.
Mm-hmm.
T'as un livre qui sort qui s'appelle « Les bobos, la révolution sans les efforts ».
Ouais.
Aux éditions « La Renaissance du livre ». Catégorie humour, qui est d'ailleurs la même catégorie où est sorti le livre que j'avais écrit avec Renaud Coppens et Benoît Guders.
Sur le foot.
Sur le sport.
Non, sur le sport, pardon. Ah ouais.
Tu l'as acheté et tu ne l'as pas lu?
Non, il est dans mes toilettes.
Tu l'as lu ou pas? Honnêtement.
En partie.
Honnêtement.
En partie.
Quelle partie?
La première. toi, t'as pas regardé mon web documentaire, donc un donné pour un rendu.
Oh oui, mais excuse-moi si je me suis... Tu m'as forcé à regarder ton web documentaire.
Non, je t'ai forcé à regarder une scène.
Non, 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 on a regardé... Le web documentaire de Myriam est un web documentaire sur l'avortement. Et on a dû regarder ensemble parce qu'elle m'a forcé à m'asseoir à côté d'elle et me montrer le psychologue, le sociologue, le coupologue.
Les médecins, les assistants sociaux.
Exactement. Et c'était intéressant... Et j'ai regardé quoi, l'équivalent de 50% du web documentaire?
Oui, 50%.
Ça. Ah, ça m'a permis de me faire...
Mais voilà, moi j'ai lu 50% de ton livre.
Donc voilà, ton web documentaire, on peut encore le voir?
Oui, oui, oui.
Où?
Il est hébergé par le site du Soir, il suffit de taper cuisine interne, web documentaire sur Google et normalement on tombe directement dessus.
Ok, et ton nom, si on tape ton nom, ça marche pas?
Si, mais je pense que ça demande d'une recherche tellement affinée.
Et là, c'est pas de l'humour.
Ah non, c'est vraiment pas drôle.
Et donc, tu as fait pour le livre Les Bobos, la révolution sans effort, c'était chronique sur la première.
Ouais, c'est les chroniques dont on n'est pas rentré de l'année dernière.
Et il y a un truc, moi, qui me fascine. Tes chroniques, j'aime pas, ont super bien marché.
Ouais.
Tes chroniques Bobos, je le sais, tu disais toi-même que tu mettais beaucoup moins d'efforts. D'ailleurs, peut-être pour ça que ça s'appelle la révolution sans effort.
J'avais beaucoup moins de pression aussi, parce que personne ne m'en parlait jamais, alors que mes chroniques, j'aime pas, chaque mardi, quand elles étaient postées sur Facebook, il y avait beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui m'écrivaient. Sur la première, je pense que c'est aussi un public qui est beaucoup moins sur les réseaux sociaux, donc j'avais l'impression de la faire un peu dans le vide, donc j'avais moins de pression, donc ça me stressait moins, donc je le faisais, je l'écrivais un peu...
À la cool.
À la cool.
Et là, vous avez fait une bonne annonce, c'est un peu une nouvelle mode pour quand il y a des livres qui sortent. Maintenant, on en fait des bonnes annonces.
Un teaser.
C'est pas vraiment une bonne annonce comme les films, c'est vrai, c'est plus un teaser. En 3 jours, 25 000 views, plus ou moins, si je résume.
Oui.
Si tu dis que t'as pas nécessairement fait beaucoup d'efforts pour écrire les chroniques, le livre, c'est pas toi qui l'as pitché, c'est quelqu'un qui te l'a proposé.
Oui, alors on va juste remercier Nicolas Vado.
Le dessinateur, entre
dessinateur du Vif et de l'Écho, qui est un type.
Donc, t'étais fan quand t'étais jeune,
ouais,
d'ailleurs.
Je suis super fan depuis que je suis ado. Ben, j'aime toujours beaucoup.
Peut-être, mais t'es encore jeune.
Oui, ben voilà. Oui, je suis encore jeune, je n'ai que 30 ans. Qui travaille aussi pour cette émission On n'est pas rentré, qui m'a demandé un jour, ouais, tiens, t'as jamais pensé à sortir tes chroniques en bouquin? Ben non. Ah, ben tu devrais. Ben, je sais pas, moi je connais personne, j'ai aucun contact avec la maison d'édition. Oh, ben, je vais demander à la mienne. Le lendemain, j'avais une éditrice qui m'appelait.
Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ouais, et c'est lui qui les illustre, les chroniques.
Donc ça a vraiment été, pour le coup, ce truc-là. Des fois, dans la vie, tu chies,
un coup
tu
de bol
forces
monumental,
et t'arrives à rien.
Ouais.
Et d'autres fois, ça arrive.
C'est dingue.
Ouais. Et sur les 25 000 personnes qui ont regardé, ça dit rien sur les ventes éventuelles ou...
Non, ça dit rien. Mais en tout cas, ça a fait connaître... Enfin, c'était mon but, quoi. C'était de faire savoir aux gens qu'il y avait un livre qui allait sortir.
Et la tournée promo, tu connais à peu près tous les journalistes de Belgique. Tu crois qu'elle va être bien?
Ouais, je pense. Je pense qu'il va avoir une couverture sympa. J'ai pas mal de copains dans les rédactions. Et je crois que par amitié pour moi, ils vont me consacrer quelques lignes.
Donc le livre sort le 11 octobre.
Ouais.
Donc dans pile poil une semaine, si vous téléchargez le podcast la même journée. Sinon, ben, t'sais, faites le calcul. Là. 11 octobre. Et si vous téléchargez le podcast après le 11 octobre, c'est qu'il est déjà disponible. Quand tu vois la façon dont le teaser a fonctionné pour les trucs les bobos, ta chronique j'aime pas est terminée, celle qui a le plus marché, t'as pas envie de faire un livre avec le truc j'aime pas, la chronique j'aime pas?
Mais si, mais moi je suis quelqu'un qu'on doit venir chercher et qu'on doit tirer. Quand j'ai besoin des gens, je ne vais jamais vers eux, j'attends toujours qu'ils viennent vers moi.
C'est pas... Je veux dire un truc, c'est une théorie, mais c'est pas le luxe de la jolie fille, ça? Je veux dire, si mettons t'es moche et que t'as pas nécessairement d'amis... Et tu sais qu'il n'y a jamais une fille qui va t'inviter au bal, c'est toi qui dois aller vers elle, tu t'habitues à faire des efforts. Toi, ça veut dire, est-ce que c'est parce que tu t'es habitué? Tu sais, mettons, si tu restes dans ton coin jusqu'à ce que tu crèves de faim, ça veut dire qu'on est toujours venu te chercher avant que tu crèves de faim.
Ouais.
Et t'as pas l'impression que si tu te bougeais, t'en aurais plus? Je dis sans méchanceté, mais... C'est parce que si tu dis, si quand je fais rien et qu'on vient me chercher, j'obtiens ces trucs-là, si je me bougeais puis j'allais en chercher, j'en aurais plus.
Mais en fait, ironiquement, à chaque fois que je me suis bougée, j'ai jamais rien obtenu. Et à chaque fois que j'ai rien fait, c'est un peu comme l'amour, quoi. Ça te tombe dessus au moment où tu t'y attends le moins. Et ben, pour moi, le boulot, ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois que moi-même, j'ai fait une démarche, que j'ai envoyé un CV, que j'ai contacté quelqu'un, ça n'a jamais abouti.
OK. Donc, autrement dit...
C'est mon destin.
S'il y a une maison d'édition qui écoute et qui veut publier tes chroniques j'aime pas, c'est pas que t'es contre, c'est que tu vas pas te bouger toi-même pour le proposer.
Non, mais qu'ils se sentent bien à l'aise à me le proposer.
Ça c'est bon. Qui te fait rire?
Didier Super me fait rire.
Donc, qu'on a vu en concert dernièrement.
Ouais.
Et on a vu des gens se casser pendant le truc de Didier Super.
Et lui faire des doigts d'honneur.
Ouais.
Mais c'est des vieux. Mais je peux comprendre. Moi, mes parents seraient coincés dans un concert de Didier Super alors qu'ils s'attendaient. Enfin, c'était leur rallye chantons français à Saint-Gilles, au Centre culturel Jacques Franck. Et avant lui, il y avait un chanteur à texte. Et après lui, il y avait un conteur contemporain. Et puis voilà, on a mis Didier Super en plein milieu. Il était pris en sandwich entre les deux. Il y en a qui sont restés simplement en attendant le suivant, et je comprends qu'ils étaient très choqués parce qu'il est très choquant, Didier Super.
Ouais, et bon, il faut juste pas le prendre au premier degré.
Non, mais... c'est du 100 000e degré, mais c'est ça qui est très drôle.
Et parce que c'est pas tout le monde qui sait ça non plus. Toi, t'aimes l'humour le plus. Tu dis que t'aimes pas l'humour, mais c'est pas vrai. T'aimes pas l'humour qu'on peut nous proposer, mais t'adores l'humour trash, mais
ouais.
Super trash. C'est quoi ta blague préférée? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as raconté ta blague préférée.
Non, c'est horrible.
Vas-y.
Non.
Mais moi, je peux raconter?
Non.
Non?
Non.
Envoyez-moi un email, je vais vous la raconter. Et pourquoi t'es gênée?
Honnêtement?
Ouais.
Parce que maintenant que j'ai des amis à qui la mésaventure de la blague est arrivée, ça me fait moins rire tout d'un coup et je trouve ça choquant pour eux. Respect pour eux.
C'est pas cette blague-là, mais admettons que ce soit une blague sur le sida, juste pour pouvoir donner un terme. Tu trouves pas que c'est un peu triste de dire que les choses te font rire jusqu'à ce qu'elles te touchent personnellement? Ça, il y a Anthony Jeselnik qui, moi, est un de mes préférés que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 6 mois. Si vous êtes fan d'humour trash, lui, c'est du one-liner, donc une phrase, une chute. Et c'est l'ex de Amy Schumer aussi qu'on voit de plus en plus. Enfin, bref, allez googler les deux. Ils ont des albums sur iTunes, entre autres. Anthony Jeselnik fait des roasts super drôles.
Des roasts? Un roast? C'est quoi pour un concept de merde?
C'est à l'époque de Dean Martin et cette époque-là. Pour ceux, donc je rouvre une autre parenthèse pour expliquer ce qu'est un roast.
Je comprends pas, vraiment ça me dépasse. Et ça ne me fait pas rire du tout.
Alors que c'est le truc le plus trash qui existe. En humour, il y a rien qui existe.
C'est un type qui est au milieu des autres. Et en gros, c'est le fromage ébattu, mais tu vois, le fermier dans son pré. Alors le petit rejeté au milieu qui se fait taper par tout le monde. C'est ça, sauf que le petit rejeté au milieu, il l'a choisi, il est content, il rigole avec tout le monde.
Mais le concept d'un roast, un invité, d'ailleurs. Et les profits de ces roasts-là vont toujours à des trucs de charité, ce qui est une belle façon de dire de la marde aussi en général, parce que oui, mais c'est pour les petits cancéreux, donc plus personne ne peut rien dire. Il y en a qui s'en sortent avec pas plus loin qu'en Belgique, avec des événements et des concerts où, vu que tous les profits vont pour des bonnes causes, c'est devenu quasiment impossible de critiquer la qualité des dits événements. Et prenons, il y en a avec, mettons, Charlie Sheen. Charlie Sheen arrive, il y a 10 personnes qui vont le roaster, donc en gros faire une chronique sur lui, mais ça va être une chronique assez trash. Et donc moi, on va dire, moi j'arrive, tu sais, Charlie Sheen, notre invité, mais avant de faire des vannes sur lui, je fais les vannes sur les 9 autres qui vont être, qui vont venir faire de la chronique. Après, je fais une minute ou deux sur Charlie Sheen. Chacun passe à son tour et à la fin, Charlie Sheen a droit de parole. Et Anthony Jeselnik l'a fait pour Charlie Sheen et avait dit, entre autres, c'était à l'époque où Charlie Sheen avait des gros problèmes publics avec la drogue, ses femmes, tout ce que tu voudras. Donc, il avait été évincé de son émission télé, Charlie, je crois, en français, Two and a Half Men. Et Jeselnik lui dit, honnêtement, je vois pas pourquoi est-ce que tu te plains de ce qui peut t'arriver de ton sort en télévision quand on sait que la seule raison pour laquelle tu as commencé en télé, c'est parce que Dieu déteste Michael J. Fox. À l'époque, Charlie Sheen avait remplacé Michael J. Fox quand, à cause de son Parkinson, Michael J. Fox avait été obligé de quitter l'émission Spin City. Et c'est des blagues comme ça, j'ai entendu sur Sarah Silverman, une actrice qui sort, une humoriste qui sort, entre autres, qui sortait avec Jimmy Kimmel, qui sort aujourd'hui, je crois, avec un des writers de Family Guy. Quelqu'un dit « Ah oui, on est arrivé là-bas et je sais pas trop quoi, c'est asséché plus vite que le vagin de Sarah Silverman devant quelqu'un qui peut pas l'aider à avancer sa carrière. » Et c'est que... Excuse-moi, mais moi, ça me fait rire. C'est que...
Moi, pas tellement.
C'est comme une arène de boxe. Tu peux pas dire, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de donner des coups de poing à quelqu'un d'autre quand c'est deux boxeurs qui ont accepté volontairement de monter sur un ring. C'est bon pour la
promo. Ah, mais c'est pas pour ça que ça me fait pas rire. Je trouve ça drôle, la violence gratuite. C'est juste que...
Tu trouves drôle Didier Super qui va aussi loin, presque aussi loin que les trucs dans les roasts.
Presque aussi loin. Moi, je connais personne qui aille plus loin que Didier Super.
La blague la plus violente que je connaisse, c'était dans un roast, c'était le roast de Pamela Anderson, où il y avait Courtney Love, dont la veuve de Kurt Cobain, mm-hmm. qui était là, et Jeffrey Ross, qui est le chef des roasters. Il s'appelle le Roastmaster General, pour ceux que ça intéresse. Il y a un livre qui s'appelle « I Only Roast the Ones I Love », qui est super, si vous intéressez à ça, disponible sur Amazon. Et Courtney Love avait pris, je crois, toutes les drogues du monde, encore une fois, cette soirée-là. Et elle n'arrêtait pas de casser les couilles et casser son rythme. Et il se retourne et puis il lui dit « Courtney Love, je sais pas comment tu fais en 2010 pour réussir à avoir une plus sale gueule que Kurt Cobain aujourd'hui. » Donc son mari mort. Et je crois qu'une semaine après, elle est rentrée en rehab. Courtney Love, un truc comme ça, ça l'avait choqué. Faire une blague sur le mari mort de quelqu'un devant sa gueule, devant tout le monde,
oui,
je connais rien
trash.
De plus violent.
Oui, c'est violent, mais ça me fait pas tellement rire.
Mais toi, c'est peut-être parce que c'est visé sur une personne, alors
oui.
que Didier Super, c'est visé sur des groupes.
Sur des catégories, oui.
C'est peut-être ça qui fait en sorte que ça te fait moins rire.
Sans doute.
Le côté très
peut-être.
Personnel.
Et puis, je suis pas du tout cliente de l'humour américain. Vraiment, ça me laisse complètement de marbre. Les comédies américaines me font pas rire. même si je reconnais un talent d'écriture, une vivacité d'esprit.
Et que t'adores Will Ferrell et Zach Galifianakis.
Pas du tout.
Elle
non,
adore
ça, c'est toi.
Will Ferrell et Zach Galifianakis de toute façon. Pas de panique, tout le monde. Elle est normale.
Non,
et
pas.
Judd Apatow, elle a un certain respect, même si elle trouve qu'il a un peu perdu dans les derniers films.
Mais Judd Apatow, j'ai un certain respect, surtout depuis qu'il produit une des meilleures séries de l'année dernière, Girls, avec Lena Dunham,
oui.
Qui a produit, coproduit la série aussi, qu'il a écrite, qu'il a créée.
26 ans.
Ouais, et qui est présenté comme le nouveau Woody Allen au féminin.
Et on dit des gens qui aiment la série Girls, donc de Lena Dunham, si tu aimes la série Girls de Lena Dunham, c'est que t'es un hipster, un wannabe hipster.
Ah
et
oui.
Si tu trouves que c'est pas bon, c'est que t'es
encore
un douchebag hipster.
Ah oui.
Mais si vous connaissez pas, c'est pour ceux qui aiment la série Louis, donc le truc de Louis C.K., c'est ce qui se fait de plus proche en équivalent féminin, même si ça n'a rien à voir, mais la logique, le single cas, la fille, elle se fout à poil alors qu'elle a un physique... genre, je veux dire, normal, quoi.
Mm-hmm.
Et les acteurs ont des gueules assez, justement, pas
plasticinées.
C'est
des gens comme nous,
ouais.
Quoi. Des gens de tous les jours, des gens de la vraie vie.
Et le pitch, pour ceux qui connaissent pas, peut-être juste expliquer en deux secondes, si tu peux donner envie aux gens de télécharger, légalement.
Le pitch a l'air tout à fait stupide, et c'est pas ça qui va donner aux gens envie de télécharger. C'est des copines qui se retrouvent à New York sans le sou et qui doivent faire leur trou. Elles ont 25 ans, plus ou moins. Elles ont pas de boulot, elles ont pas de mec, elles ont une petite vie minable. Elle colloque dans un appartement. Et
est-ce
voilà.
Qu'on peut dire que c'est ce à quoi aurait ressemblé Sex and the City si ça avait été dans la vraie vie?
Ouais, sans doute. Ouais,
le
oui.
Côté amitié, oui. Vie normale, et au lieu d'avoir Carrie Bradshaw qui écrit un article tous les 8 ans et puis qui...
Oui, c'est ça. J'aimais bien Sex and the City en son temps, mais
aussi.
C'est une série, c'est quasi du cartoon, quoi. C'est de la caricature. Tandis que Girls, c'est pas du tout de la caricature, ça ressemble à la vraie vie. Ça ressemble à la vraie vie à Bruxelles et pourtant c'est la vraie vie à New York.
Donc voilà, on revient à Didier Super, le fait que t'aimes l'humour trash, et moi je disais Anthony Jeselnik parce que tu disais que la blague la plus trash, t'as pas envie de la raconter parce que ça touche des gens que t'aimes beaucoup, qui ont
oui,
dû vivre
ce truc-là. Oui, et
alors
tu me disais, est-ce que c'est pas triste de ne plus rire des
oui,
choses quand elles te touchent personnellement?
Est-ce qu'Anthony Jeselnik disait, parce qu'il disait qu'une fille vient me voir en disant « Hey Anthony, j'ai super ri à ton spectacle, mais je suis content que t'aies pas fait de blague sur les lesbiennes parce que moi je suis lesbienne, et honnêtement si t'avais fait des blagues sur les lesbiennes, j'aurais vraiment détesté. » Et dit, est-ce que t'es pas la pire personne de toute l'histoire de l'humanité de dire que t'es capable de rire des horreurs si elle concerne que les autres, et dès que ça te concerne toi, là ça finit par te toucher, c'est que t'as une espèce de nombrilisme, une espèce de vanité personnelle, ouais.
Pour ma part, je sais pas si j'ai de l'orgueil pourtant, mais je suis quasi invexable. Invexable, je pense qu'on peut faire toutes les blagues à mon sujet... même les plus dépréciatives.
Sur le physique ou sur la personnalité?
Surtout.
Ouais.
Surtout, sur mon boulot, sur mon physique, sur ma personnalité. Je ne me souviens pas de m'être un jour braqué à propos de quelque chose. Par contre, je sais que les autres le font, donc par délicatesse pour eux, il y a certaines choses que je passe un... Voilà, c'est pour ça que j'avais pas envie de raconter cette blague tout à l'heure. Voilà.
Ok. C'est comme quand moi je dis que j'ai pas envie de raconter un truc parce que je pense que toi ça peut te toucher. Toi, tu t'en fous, c'est pas toi que ça va vexer, mais ça peut peut-être vexer tes amis.
Exactement.
À toi, et tu préfères ne pas
voilà.
Le faire. Je trouve que c'est une réaction de grosse conne.
Merci, Dan.
J'aimerais ça que vous voyiez son regard, parce que je voulais juste tester si c'est vrai que t'étais invexable. Et invexable me semble être un peu un stretch. Difficilement vexable me semble déjà un peu mieux. Et je suis content qu'on ait commencé à parler donc un peu plus d'humour, parce que c'est de ça dont traite le podcast en théorie, même si je voulais faire un tour un peu de ta carrière, de ton commencement de carrière.
Tu me demandais il y a quelques instants qui me faisait rire.
Ouais,
on
mais
va quand
ça.
Même boucler la boucle. Didier Super, et alors quelqu'un qui fait pas rire beaucoup de monde et qui est considéré comme étant un plouc, qui moi me fait énormément rire, c'est Elie Semoun. J'adore ce type. Tout ce qu'il fait me fait poiler. Ses petites annonces m'ont fait rire.
Sa voix des gens comme ça.
Sa voix. Mais même quand il chante, il a fait des albums un peu bossa, un peu lover.
Ouais.
Je l'entendais chanter, je riais.
Mais tu sais que c'est un truc qui fait que je crois qu'il a arrêté sa tournée. En tout cas, il a pas
ouais.
Continué sa tournée parce qu'il commençait à chanter, les gens se marraient.
Mais oui.
Et le pire, c'est qu'Elie Semoun, pour avoir déjà interviewé, tu l'as déjà interviewé aussi, c'est la personne... Je crois que si tu touches Elie Semoun, tu deviens dépressif.
Oui.
C'est la personne la plus... C'est l'incarnation du gris, de la tristesse. Il est...
Du gris, non. De la déprime, certainement. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que ces personnages, parce qu'il a de l'humour en personnage.
Oui.
C'est plus le personnage
que le stand-up.
C'est pas du stand-up. Moi, le stand-up, ça me fait pas tellement rire.
Sauf Dan Gagnon.
Ah oui, sauf Dan Gagnon, évidemment. Mais Dan Gagnon est hors catégorie. Elie Semoun a des personnages extrêmement seuls, et extrêmement minables, et extrêmement tristes. Et je trouve que le tour de force, c'est d'arriver à en faire quelque chose de vraiment drôle et d'assez universel.
Mais t'es obligé. J'ai tout oublié. L'humour, c'est. J'en ai parlé avec Cody, donc je vais pas en faire 10 minutes, mais c'est de la tension, et tout ce qui est triste, tout ce qui est négatif, a déjà de la tension intrinsèque. Et le génie, c'est. Woody Allen a fait beaucoup ça. Louis C.K. fait énormément ça aussi, des idoles pour moi. Prendre quelque chose qui en soi peut être pathétique et le rendre drôle. Et pour ça, je crois qu'un des meilleurs films au monde, c'est pas le film le plus réussi, mais la prémisse est tellement intéressante. C'est Melinda et Melinda de Woody Allen, où c'est deux auteurs, un auteur dramatique et un auteur comique, qui s'engueulent sur le fait de savoir si la vie est à la base dramatique et que c'est pour ça que les comédies marchent, ou si elle est comique et c'est pour ça que les drames marchent. Et les deux, donc l'auteur comique et l'auteur dramatique, vont raconter l'histoire et comique et dramatique, mais c'est la même histoire. Et tu vois les deux films avec la même histoire, et j'ai trouvé ça super fascinant. Et comme d'habitude, quand tu vois un film de Woody Allen, tu te dis fuck, c'est une bonne idée, mais maintenant qu'il l'a fait, il est trop tard. Ceux qui te font rire en Belgique, il y en a?
Mes amis.
Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on se demande toujours. Pourquoi est-ce que, à part du fait que ce soit des private jokes, mais tu rencontres dans la vie de tous les jours plus de personnalités, plus de caractères et plus d'humour différents que tu peux rencontrer en télé et sur Internet, non?
Oui. Je sais pas. Moi, je suis très cliente des private jokes. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les 5 heures cinéma aussi. T'as l'impression d'écouter tes amis. Sinon, tu me demandais qui me faisait rire en Belgique. Je trouve que James Dino a beaucoup, beaucoup de potentiel. Pas toujours exploité à 100%, mais c'est aussi le genre de type qui ouvre la bouche et qui me fait rire.
C'est une star, il n'y a rien à
Et sa
faire.
voix, j'adore sa voix.
Et c'est. Jerry Seinfeld dit l'humour, c'est une question de rythme, et c'est pour ça que plusieurs batteurs sont des bons humoristes. Et Dino, ben forcément, en ayant été. Et en étant toujours rappeur. Et d'ailleurs, c'est un gros problème pour lui. Et on en a déjà parlé, ça le fait chier des fois de se dire merde, comment est-ce que je fais pour continuer d'être à la fois rappeur et à la fois humoriste? Et c'est un dilemme dans sa tête, et ça le travaille. J'ai dit, t'as pas besoin. Dans ton humour, parle du fait que t'es rappeur, puis quand t'es rappeur, ben. Tu t'en fous ou t'en glisses une ligne, mais il y a tellement de flow et de rythme que tout ce qui. T'es fasciné par ce qu'il raconte parce que ça tombe toujours super juste. Et c'est un comédien
Ouais.
sous-estimé, c'est un acteur
C'est vrai.
extrêmement talentueux. Et il y a ce côté-là star, il n'y a rien à faire, il y a ce côté-là star. Si lui est à l'écran et il commence à parler,
Il crève l'écran.
t'oublies que les autres
C'est vrai.
existent. En Belgique, donc,
Laurence
tu dis.
Bibeau. Je suis la plus grande fan vivante de Laurence Bibeau, je pense. Ce qui est un problème parce que je la côtoie dans le cadre du boulot, donc je dois faire semblant que je m'en fous. Mais en fait, je m'en fous pas du tout. Je trouve ça génial. À chaque fois que je lui parle, je fais, oh, je suis en train de parler à Laurence Bibeau.
Et d'ailleurs, Laurence Bibeau t'a déjà invité à des brunchs chez elle le dimanche.
Oui. Et donc, je t'emmenais avec moi.
Ben oui, en tant que petit manant qui avait le droit d'être là. Et c'est là que tu. Il faut savoir que Myriam est un peu. Comment
Comment
est-ce qu'on peut
dire?
dire ça? Adore faire des coups de pute. Voilà.
Ouais.
C'est ton plus grand plaisir en soirée, c'est de dire le truc qui met tout le monde mal à l'aise. Et si t'es la seule à te marrer, c'est là que tu te marres le plus.
Ouais.
Et ça t'a déjà causé énormément d'emmerdes.
Ouais.
T'as perdu des amis avec ça.
Ouais.
Voilà. Et t'as failli en perdre un cette fois-là. L'histoire, pour faire une longue histoire courte, quand j'ai y avait le projet au Cirque Royal, j'avais fait de la promo un peu partout, dont dans 50 degrés nord. Et j'étais dans. Ça se tournait à Flagey, j'étais dans les coulisses là-bas. Et c'est. Ce matin-là, Laurence Bibeau
Je me
avait.
resserre un verre, hein,
Je
parce que l'histoire va être longue.
Laurence Bibeau a fait un papier où elle parlait de B.J. Scott, où elle parlait de son habillement, disait que B.J. Scott avait été mal habillé, je crois, ou je sais pas trop quoi. Et moi, j'étais là quand B.J. Scott avait. On lui avait appris, puis elle avait réagi en disant: Oh, ben, de toute façon, on s'en fout, Laurence Bibeau a un gros cul. Et mini-pause. Et entre filles qui ont des gros culs, il n'y a pas de problème, un truc comme ça, parce qu'elle est super chouette, franchement,
Ouais,
la
là
B.J.
là.
Scott. C'était pas genre. Oui, mais on s'en fout, elle est laide, donc son comportement, genre son commentaire n'a pas de valeur. C'était. C'est un truc qu'elle lançait comme ça. C'est vraiment une fille de. C'est vraiment la fille qui a passé beaucoup de temps dans des bars. Et moi, je raconte cette anecdote-là à toi, non? Et tu me dis, mais enfin, mais Laurence Bibeau a pas du tout un gros cul. Et moi, à moitié par provoque, à moitié par dans mes souvenirs, je fais, mais si, Laurence Bibeau a un gros cul. Donc, on arrive chez Laurence Bibeau, et entre une part de tarte au sucre et une conversation avec l'un ou l'autre, Fred Jeannin, Myriam dit tout fort, Hé, Laurence, tu sais pas quoi? Il y a Dan qui trouve que t'as un gros cul. J'ai parlé, moi, à Laurence Bibeau, 6 minutes dans ma vie.
Ben bah oui, mais c'était pour casser la glace.
Ah, ben, t'as cassé plus que la glace, t'as cassé l'ambiance aussi. Et t'as Laurence Bibeau qui commence à dire, Ah oui, tu trouves, et qui se plus ou moins mate le cul. Le truc, c'est que j'avais l'air un peu d'un plouc, mais j'avais quand même envie de vérifier. Donc, tu essaies de dépatauger, mais en même temps, tu essaies quand même de jeter un petit coup d'œil pour voir. Et je confirme, elle n'a pas du tout un gros
Pas du tout
cul.
un gros cul. Elle a même plutôt un petit cul.
Qui flottait dans son jeans.
Absolument. Voilà.
Laurence Bibeau, qui d'ailleurs, j'aurais quelque chose à vous dire à propos d'elle rapidement dans les prochains podcasts. Et t'es fan d'elle, t'as essayé de travailler avec elle?
Mais oui, on avait un projet qui est un peu en stand-by pour l'instant. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'écriture de programmes courts pour la télévision ou pour Internet. On ne sait pas encore. Donc on a pitché quelque chose. On a écrit la Bible des
Tu peux nous
personnages.
raconter, sommairement?
Eh bien, ça partirait d'un accident de télésiège au ski qui décimerait la famille royale belge. Et qui laisserait apparaître au grand jour une héritière illégitime,
Delphine de Boël.
une sorte de Delphine Bowell, personnifiée par Laurence Bibeau. Et ce personnage sur lequel la sûreté enquête pour savoir s'il est apte à reprendre le flambeau et à monter sur le trône, est un personnage assez trouble, qui a beaucoup de relations avec les hommes, et des hommes pas toujours très fréquentables. Donc
Une tinka.
une catin, oui, on peut dire ça. Et voilà,
Excuse-moi, ça fait toujours rire d'entendre une fille qui a une super belle voix toute distinguée dire des mots sales.
une grosse putain. Mais en plus, non, c'est pas du tout ça le
Est-ce que tu
personnage.
peux juste le dire comme ça, je peux l'isoler comme jingle pour prochain?
Une grosse pute. Ça va,
Un, deux,
c'est...
trois ans peut-être?
Quoi, par exemple?
Comme si t'étais pas créative dans
Une
les
assoiffée de
insultes.
la chatte? Je le crie un peu, comme ça, un peu plus violent.
Un petit dernier.
Non, bon, non, ça va aller, je pense. Et voilà, donc Laurence Bibeau. Mais sinon, elle n'a même pas un personnage de catin. Elle a un personnage de femme qui, un jour, alertée par un petit problème de santé, se rend compte que la vie est courte et qu'elle a peut-être perdu beaucoup de temps à se faire chier et qui décide de la vivre. Qui vit une seconde crise d'adolescence. Et donc voilà, c'est ça.
Et c'en est où? Qui est au courant? C'est quoi l'objectif?
J'en sais rien. J'en sais rien. Pour l'instant, on en est là.
En fait, je ne sais pas où tu en es financièrement dans ta vie, mais tu as quand même, tu as l'air d'avoir cette particularité-là ou cette chance-là où tu l'as développée de pas du tout être pressé de faire aboutir les projets. Tu vois, on sent aucun
Non.
empressement, aucune
Non, non, c'est
rage
vrai,
de
je suis pas
Ah, faut que
pressée.
ça arrive! Alors que, je veux dire, pour ceux qui ne savent pas, tu as aussi un roman qui est écrit, que moi j'ai lu,
Oui, qui est dans mes tiroirs depuis 1 an et demi.
qui est fini, donc le mot fin est écrit.
Ouais.
Et je sais pas pourquoi tu. Je veux dire, moi, évidemment, je suis pas objectif parce qu'on sort ensemble, mais je le trouve très bon. Et je vois pas qu'est-ce que tu glandes à le laisser dans le fond de tes
Bah, il
tiroirs.
faut que. Bah, non, bah, c'est pas le but, hein. Le but, c'est qu'ils vivent. J'aimerais bien le faire éditer un jour ou l'autre, mais.
T'attends qu'on vienne te chercher encore?
Non, non,
S'il
non,
y a
non, non,
des
là pour ça.
éditeurs.
Non, non, non. Là pour ça, je ferai quand même des démarches, mais c'est juste que je repassais dessus. Il y a des trucs qui sont pas bons. Il y a des trucs dont je suis plus ou moins contente, mais il y a quand même beaucoup de déchets. Et
C'est pas
donc,
une comédie.
non, c'est pas du tout une comédie. Et donc, il faut réécrire quand même pas mal de choses. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Et j'ai beaucoup de choses sur le feu. Donc voilà. Des choses pour lesquelles je suis payée. Là pour le coup, je suis pas payée. Donc voilà, j'essaie d'abord de gagner ma vie.
Donc, parmi l'écriture, donc on sait qu'il y a un livre dans tes tiroirs, un livre qui va paraître le 11 octobre, et tu t'es fait aussi, donc il y a une série, projet de série, et tu t'es fait commander quelque chose.
Oui, bah alors là, je sais pas si on peut déjà en parler à ce stade-ci, mais si, on peut.
Ben, moi, ce sera avec plaisir.
Je suis en train d'essayer d'écrire une pièce de théâtre pour la Toison d'Or, sur demande de Nathalie Huffner, qui est la directrice du théâtre. Et voilà, donc j'ai écrit quelque chose, je suis censée le rendre la semaine prochaine, le 8, pour être tout à fait précise. Et je
Donc,
suis
si
pas.
Nathalie écoute, est-ce que tu veux déjà demander une
Un petit
prolongation?
délai. Je ne suis pas du tout prête, j'ai pas du tout eu le temps. Là, je reviens de quelques jours à l'étranger pour un reportage. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce début d'année parce que j'ai eu un été un peu chahuté professionnellement. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. Mais ce que j'ai déjà écrit me plaît assez, en fait. Et c'est très rare que ce que j'écrive me plaise. Donc j'espère que Nathalie va dire oui parce que voilà, il faut avoir son feu vert quand même.
Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ou ça tu peux pas?
Aussi, mais il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. C'est une succession de scénettes autour d'une libre antenne radio à destination des femmes dans les années 60.
Ok.
Voilà.
Les filles sont moins drôles que les mecs?
Ouais.
Tu trouves?
Ouais.
Pourquoi?
Pour des tas de raisons, et notamment parce qu'on les laisse pas être drôles. Parce qu'une fille, en général, quand elle est jolie, elle cultive pas autre chose.
Tu crois que... Moi, c'est ce que je pense. Et je pense pas ça parce que les belles filles sont connes. Je pense que... Moi, je dis quand j'étais plus jeune, ma façon d'exister socialement, c'était d'être drôle. Mm-hmm. Parce que j'étais pas super bon en sport. J'étais bon à l'école, ce qui n'était pas de faire des amis. Et j'étais pas spécialement beau. Et donc, pour exister dans un groupe, ce qui me restait, c'était d'être le marrant de service. Mais si t'étais, si t'étais le plus beau du groupe, les filles viennent te voir. Si les filles viennent te voir, tous les mecs veulent être potes avec toi. Si t'es pote avec tous les... Tu vois, et donc, de se développer une personnalité alors que t'as pas besoin de le faire parce que t'es beau ou belle, putain, moi, je trouve que c'est un miracle. C'est pour ça que je trouve que la fille idéale ou le mec idéal, c'est celui qui était moche jusqu'à 18 ans ou 16 ans puis qui est devenu beau après. Il s'est développé une personnalité... Et avec Cody, on en parlait hors antenne la dernière fois, et il garde ses réflexes de moche.
Ben ouais, moi aussi.
Mais toi, t'étais moche jusqu'à...
Jusqu'à aujourd'hui, Daniel.
Jusqu'à idéalement demain, ou après-demain, au pire.
Non, ben jusqu'à, je sais pas, mes 15 ans, quand j'ai retiré mes énormes lunettes et que j'ai testé les lentilles de contact, et que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde derrière mes fonds de bouteille.
et donc voilà... Et... Donc, il y a moins de filles drôles parce qu'il y a moins de modèles de filles drôles aussi, j'imagine.
Oui, certainement, parce qu'elles s'exercent... Elles cultivent peut-être moins ça, la société. Enfin, j'ai pas envie de mettre tout sur le dos de la société, mais pourtant, je pense que c'est quand même une cause importante.
Est-ce que ça va changer? Si t'as deux, trois
je
filles
drôles... Je pense que ça évolue, ouais.
Aux États-Unis, ça change énormément. Ouais, il y a ouais. énormément de séries, genre Glenna Dunham, Whitney Cummings, t'as Two Broke Girls, The New Girl... Amy Schumer qui devient de plus en plus populaire, Nikki Glaser, Sarah Silverman, mm-hmm. t'as vraiment la nouvelle vague, il y a
mais
autant
c'est aussi pour ça que
de filles que de mecs.
Que j'adore Laurence Bibeau, parce qu'elle est toute seule dans sa catégorie en Belgique.
Et j'ai l'impression qu'elle a toujours fait des choses, elle a jamais eu un humour de mec ou un humour entre guillemets de fille non plus, elle a fait ses
elle
trucs
a jamais eu d'humour sexué, ouais.
Et par contre, est-ce que tu crois que ses fans sont principalement filles ou mecs? C'est une belle phrase.
Ouais, je... Je pense que c'est un heureux mélange des deux. J'ai pas l'impression qu'elle ait un public particulièrement féminin.
J'aimerais bien la rencontrer pour voir comment elle voit ce truc-là, forcément. Donc, voilà. Les hommes qui trouvent pas les filles drôles, c'est, tu vois ça comme du machisme ou simplement de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un humour différent et forcément tout ce qui est différent, ça te plaît moins?
Les filles tendent en général souvent le bâton pour se faire battre. J'ai des copines qui sont super drôles quand on est entre filles. Et qui, une fois qu'il y a le loup qui est entré dans la bergerie, change totalement d'attitude et ne met pas du tout en avant cette qualité-là.
Comment ça rouler?
Bah, parce qu'en fait, la drôlerie, est les filles drôles ne plaisent pas. C'est pas sexy, une fille drôle. Ou, sauf quand elle a un humour sexy. Genre... Le type Louise Bourgoin. Louise Bourgoin ne me fait pas du tout rire, mais les mecs la trouvent drôle parce qu'elle est sexy.
Ouais, la Miss Météo de Canal.
Ouais. Moi, elle me fait pas du tout rire, je la trouve pas marrante.
Elle est drôle avec ses loches, comme on dit.
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as l'impression médiatiquement, je veux dire, quand on regarde les autres filles qui font de l'humour et qui font de l'humour en radio, Fanny Gendrin, Laurence Bibeau, Delphine Poinbar sur Classique 21.
Elles font de l'humour, ces filles-là? Enfin, Laurence Bibeau, oui, mais Fanny. Non, mais c'est une vraie question. Fanny Gendrin et Delphine Poinbar, elles
c'est
font
drôle parce
des,
que
des chroniques de la vie quotidienne, quoi, non?
Ma question d'après, c'est est-ce que tu as l'impression d'être la bitch de service? Donc voilà, tu réponds. Tu réponds déjà à ma première question.
Mais non, mais j'ai pas l'impression que leur but soit d'être drôle.
Ben toi, ton but, est-ce que c'est d'être drôle ou pas?
Non, moi non,
ben,
vraiment pas.
Parmi les chroniqueuses à tendance humoristique dans le paysage... C'est juste que le terme humoriste te fait chier, mais au total, et tout le monde commence à rire de toi. Alex Vizorek, entre autres, est le premier à toujours dire « Tiens, la non-humoriste qui sort un livre d'humour. » Mais si tes chroniques ont bien marché dans J'aime pas, c'est que ça faisait marrer les gens. Ça faisait pas marrer parce que c'était quelqu'un qui glissait sur une pelure de banane. Ça faisait marrer parce qu'il y avait un fond derrière. Mais manière de transmettre le message, c'était le véhicule, c'était l'humour. C'était pas le fond, mais c'était le véhicule, l'humour.
Moi, un de mes modèles aussi, enfin, tu vas avoir l'impression que je suis vraiment frotte-manche, mais c'est Sébastien Ministru. C'est un type dont j'admire beaucoup la carrière, la cohérence et tout. Il fait des spectacles, il fait des pièces de type humoristique. Le matin, dans Snooze, il est drôle. Il crée des papiers marrants. Est-ce que c'est un humoriste pour autant? Ça reste un journaliste.
Quelqu'un qui fait rire, c'est toujours un humoriste. C'est quoi, c'est pas ça un humoriste? Comment tu défierais un humoriste, sinon?
Pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui a fait du lol son métier.
Quelqu'un qui fait des blagues.
Quelqu'un qui fait des blagues.
Mais c'est pour ça que tu dis que t'aimes pas les humoristes. À partir du moment où il y a du fond qui fait rire, tu considères que c'est pas un humoriste. Mm-hmm. Pour toi, pour être un humoriste, il faut que ce soit du vide qui fasse rire.
Ouais.
Ben, ça peut pas être...
Pour moi, humoriste, c'est péjoratif comme mot.
Dit-elle dans un podcast sur l'humour. Donc voilà, est-ce que t'as l'impression d'être la bitch de service?
Non.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir été trop loin parfois dans tes chroniques?
Non. Non, non, vraiment pas.
T'as
Pas
déjà
du tout.
été dans la merde, mais vraiment, t'as déjà eu des emmerdes, pas genre des gens qui disent qu'elle conne, des vraies emmerdes. Genre des gens qui appellent parce qu'ils sont pas contents. Je repense à un article que t'as écrit dans le Vers l'Avenir.
Ah oui! Oh, est-ce qu'on peut parler de vraies emmerdes parce qu'une attachée de presse est fâchée? Oui, j'ai eu des tas de fois des attachées de presse très fâchées.
Tu peux
Donc
raconter un ou
je suis
deux?
détestée par à peu près tous les attachés de presse de ce pays, à part à quelques exceptions près. Et en général, ces exceptions sont masculines. Et en général, sont pas forcément hétérosexuelles. Hein, donc voilà,
Mais tu plais beaucoup à l'homme homosexuel, non?
Oui, je suis une fille APD apparemment. Et c'est une fierté, je suis très
Est-ce
contente.
que t'es une fille à lesbienne aussi?
Ouais, aussi, ouais.
Donc il y a juste les hétéros qui t'aiment pas,
Oui.
qui est que 90% de la
Bah
population.
oui, voilà, merde.
Et la fois où on t'a le plus engueulé pour un truc que t'avais fait? Et j'ai les exemples en tête, donc je vais te souffler les
Mais
réponses.
alors, il y a quelques chroniques sur Pure FM qui sont mal passées auprès d'une petite frange de la population, comme la chronique sur les DJ, où on m'a envoyé des menaces de mort. Chronique sur Madonna, mais ça je m'en doutais. Madonna, j'ai vraiment fait ma chieuse exprès parce que j'avais envie de faire chier. Voilà.
Mais il n'y a pas une espèce de... Ça devient limite un... Il y a un côté malsain où le nombre d'insultes que tu reçois devient un peu ton compteur à succès, non?
Ouais.
C'est le problème quand tu fais des trucs trash, c'est de juger la qualité de ton travail en fonction des insultes que tu reçois.
Ouais, c'est vrai.
Et tu viens limite à les apprécier, non? En disant, oh,
Ah
celle-là a bien
oui.
marché.
Au début, ça me choquait un peu que les gens puissent, sans me connaître, dire que j'étais une connasse et
Qui roulait en
que...
mini, d'ailleurs.
Oui, alors
Pour une fille qui fait tellement
des tas de
d'agoraphobie,
rumeurs,
ouais.
oui, c'est ça. Comme quoi, je suis une pétasse du Brabant wallon qui roule en mini, alors que je ne conduis pas, je le
Non.
répète.
Tu n'es qu'une
Je
pétasse de
suis
bonbon wallon.
voiturephobe. Oui, voilà, je suis juste une pétasse du Brabant wallon. Ouais. Non, c'est vrai, au début, les insultes me choquaient, et puis c'est devenu assez grisant. J'aimais bien ça sur la fin.
Pourquoi t'as arrêté?
De me faire insulter?
Non, je pense pas que t'as arrêté ça. Pourquoi t'as arrêté les j'aime pas?
J'ai arrêté les J'aime pas parce que Dixit, le directeur d'antenne de Pure FM, le trend actuel n'est plus au coup de gueule et à la négativité.
Et ton opinion?
À ce sujet, que le trend actuel ne soit plus à ça, j'en sais rien. Et si c'est le cas, ça me désole.
Et t'avais l'impression d'avoir fait le tour ou t'avais encore du jus?
J'avais peut-être plus du jus pour toutes les semaines, mais j'en avais quand même pour
T'aurais
quelques
aimé éventuellement
supplémentaires.
continuer,
Ouais.
ouais. Et un truc qu'il faut savoir à propos de toi, tu t'aimes pas la télé.
Non.
Et j'aimerais que tu racontes à tout le monde la fois où t'as interviewé, et on s'en fout de l'interview, c'est ce qui s'est passé après, Michel Drucker pour, c'est quoi, c'était la sortie de son livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu faisais les petits matins aussi à ce moment-là, tu combinais les
Ouais.
deux, et tu étais en train de faire une sieste en après-midi, et raconte ce qui s'est passé.
Bon, bah déjà l'interview avec Michel Drucker, c'était super. Je pense que ça reste mon meilleur souvenir d'interview à vie, parce que c'est un type vachement attentif. Et ouais, on peut se moquer de lui parce qu'il est hyper lisse, hyper consensuel, clairement.
Mais c'est pas comme s'il faisait semblant d'être autre chose.
Mais oui, et puis il a un côté un peu magique, je trouve, Michel Drucker. Il arrive à soutirer des confidences aux gens parce que les gens se sentent bien avec lui, ils se sentent écoutés, se sentent importants, se sentent exister à ses côtés.
T'arrives pas là, disons, prêt à te battre.
Voilà. Et donc c'était une super chouette interview. Le livre était super bien. Bon, je pense qu'il était écrit par un nègre, mais ça n'enlève rien au fait que l'histoire de Michel Drucker est tout à fait passionnante. Et donc de l'interview, on est passé à une discussion très cordiale, comme deux personnes qui se rencontrent et qui vont boire un verre. Et puis à la fin de l'interview, il m'a dit que je lui faisais fort penser à sa nièce, qui est Marie Drucker, quand même pas du compliment en bois, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui. Et il voulait que je le contacte, enfin voilà, pour éventuellement collaborer ensemble.
Chose que tu n'avais absolument pas l'intention de faire.
Que j'avais absolument pas l'intention de
Tu
faire.
rentres chez toi, tu fais une sieste. Ou c'était le lendemain?
Non, non, c'était une semaine après. Je faisais une sieste parce que je revenais de la radio et puis je vois un numéro
Et parce que la
français. Ça,
sieste, c'est ta passion dans la
c'est
vie.
ma passion. C'est ma passion numéro un, c'est vrai. Et puis je vois un numéro français, je décroche pas. Puis. Ah non, 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 non,
Tu
non, c'est vrai,
décroches?
je décroche. Je décroche, mais j'étais complètement dans le gaz. Et j'entends. Allô Myriam? Ouais. Bonjour, ici Michel Drucker. Énorme quoi! Énorme, ton téléphone sonne pendant ta sieste et c'est Michel Drucker au bout du fil.
Tu l'as cru de façon inimitable, donc tu l'as cru.
Ben oui. Et voilà, il voulait me remercier pour le papier que j'avais fait sur son bouquin, qu'il avait adoré. J'avais fait toute une page en la libre. Et c'est vrai que je m'étais pas mal donnée sur ce papier parce que j'avais bien aimé cette rencontre. Et voilà, il m'appelait pour me dire ça. Mais moi, j'étais tellement dans le gaz que j'ai mis un terme quasi immédiat à la
Mais
conversation.
il t'a dit de reconsidérer le fait
Oui.
de faire de la
Il
télé parce que
m'a
t'as dit.
demandé de l'appeler, je dis oui. Et en fait, je n'avais même plus le numéro de téléphone qu'il m'avait donné et je ne l'ai jamais appelé. Mais je ne le regrette pas parce que c'était pas le moment, c'était flatteur. J'étais très contente c'était un solide compliment qu'il me faisait en m'appelant, en me disant de l'appeler. Mais j'ai préféré garder ça comme un bon souvenir d'acte manqué plutôt que d'aller me présenter là-bas en étant très mal à l'aise, en me sentant vraiment pas légitime et en faisant de la merde et en étant très gênée, enfin, et peut-être en me grillant, enfin.
Donc, tu n'as jamais rappelé Michel Drucker qui t'appelait sur ton portable en après-midi pour te dire « Salut, tu devrais faire de la télé
Ouais.
».
Mais je sais pas,
D'ailleurs, c'est pas
la
ton
télé, je le
seul,
sens pas.
c'est pas ton seul lien avec Michel Drucker, d'ailleurs. Pour tes chroniques « J'aime pas », pour ceux qui savent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube. La personne qui les mettait en ligne sur YouTube mettait toujours
Les tags.
dans les tags Faustine Bollaert, qui est donc une collaboratrice de Michel Drucker. Et oui, je me demandais pourquoi. Et un jour, j'ai cliqué sur Faustine Bollaert, donc le tag. Et quand tu regardes sur YouTube les liens concernant Faustine Bollaert, il y a des trucs où c'est écrit Faustine Bollaert, shoe dangling.
Ah oui, elle est
Et
appréciée
shoe.
des amateurs
Voilà.
de fétichisme.
Enfin, je ne savais pas ce qu'était le shoe dangling. Le shoe dangling, c'est quand tu as par exemple des escarpins.
Et que tu les tiens avec la pointe de tes orteils.
Exactement. Et que tu fais balancer ce qui se passe au talon. Il y a des gens qui font des montages avec que ça,
Avec le pied de Faustine
avec le
Pollard.
petit fossile, voilà. Et avec des commentaires en disant « Wow, what a great shoe dangling! » Et tu sais que si, mettons, quelqu'un fait un montage avec juste ton décolleté, déjà, si quelqu'un fait un montage juste avec toi, tu sais qu'il y a un pourcentage significatif de gens qui s'en servent pas juste pour regarder. Mais si il y a un montage avec, et il y avait genre 129 000 clics, donc si vous voulez faire du clic sur YouTube, le shoe dangling semble être une option, donc faites-vous plaisir. Mais tu sais que si des gens font des commentaires sur le fait que ta vidéo de shoe dangling est géniale, j'imagine Faustine Bollaert qui regarde le truc, elle le sait que les gens se sont branlés en regardant le truc. J'imagine que tu ne fais pas ça comme tu regardes un tableau de Picasso. Si c'est un fétichisme, c'est qu'il y a une raison.
Faustine Bollaert qui est mariée avec Maxime Chatham.
L'auteur,
Oui, et
que je croyais américain d'ailleurs.
pas du tout, qui est tout à fait français, mais qui est comme un Américain. Enfin, j'étais en train de lire un livre de lui, le pire livre que j'ai jamais lu de ma
Qui
vie.
s'appelle comment, comme ça on est.
Le Léviathan. Ne le lisez pas,
Ça dure
c'est de
combien de
la
pages?
bouse. Je sais pas parce que je lis sur une liseuse électronique et le nombre de pages n'est pas indiqué. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Enfin, je trouve trop longtemps. J'ai perdu trop de temps dedans.
À lire, et c'est pas. Et
Insupportable.
c'est pas la seule fois qu'il t'a eu des contacts avec la France pour des projets.
C'est vrai, Daniel. Il y a eu aussi Canal+ qui m'a contacté, mais là, je me suis prêtée au jeu. Et
C'était via Mouloud Achour.
Mouloud Achour, qui est chroniqueur pour Le Grand Journal, qui est venu passer 3 jours à Bruxelles. On a tourné un pilote avec lui.
Qu'est-ce qu'il voulait? Comment ils ont entendu parler de toi et
Eh
qu'est-ce qu'il
bien,
voulait?
ça c'est très drôle. Il déteste Mélanie Laurent, comme moi. Et moi, j'avais déjà fait une chronique « J'aime pas Mélanie Laurent » dans Snooze. Et cette chronique a été postée sur YouTube. Dis, Daniel, tu es en train de finir la bouteille de vin, là.
Continue.
Non, mais il y en a une deuxième dans ton sac?
Avance avec l'anecdote.
Oui, pardon. Donc, Mouloud Achour a tapé sur Google « Je n'aime pas Mélanie Laurent » et il est tombé par hasard sur ma chronique qui s'appelait « Je n'aime pas Mélanie Laurent ».
Shoe dangling.
Oui, c'est cela. Et donc, visiblement, ça l'a séduit. Et quelques jours après, genre 4 jours après, il m'a. Enfin, enfin, au moment même, il m'a envoyé un message sur Facebook en me disant qu'il fallait absolument que je le contacte. J'ai mis un peu de temps, je me suis un peu fait désirer. Le lendemain, il m'appelait déjà au boulot. Je sais pas comment il a trouvé le numéro de Roularta. Enfin, bref. Il essayait par tous les moyens, via Twitter, il me disait de le contacter. Et puis finalement, bah, j'ai quand même bien répondu. Et il est venu à Bruxelles. On a passé 3 jours ensemble. On a tourné un pilote. C'était super chouette. C'était vraiment chouette.
C'était la même chose que tes j'aime pas, mais en
C'était mais j'aime
télé.
pas, mais en version télé, en version réécrite, en version jouée, en version maquillée, en version coiffée. C'est dans une
J'ai jamais vu
magnifique.
les images d'ailleurs, tu
Moi
les as
non plus,
vues?
je les ai jamais vues. Enfin, j'ai vu un petit peu sur la caméra, sur l'écran témoin de la caméra. Ce que ça donnait, et c'était des très 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 belles images. C'est Mehdi Idir qui les avait tournées, et ce type a notamment réalisé le clip Je viens de là de Grand Corps Malade.
Ok.
Est-ce que c'est Je viens de là? Enfin bref,
J'ai aucune idée, j'ai dit ok pour que l'anecdote continue.
un clip sur la banlieue. Voilà, c'est ça. Superbe clip et une superbe chanson. Et donc, j'imagine que ces images devaient être superbes aussi. Et ils les ont présentées à Canal+, qui a gentiment dit que ça ne les intéressait pas. Donc, voilà.
Non, c'est le deuxième truc qui, avec la France qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Ouais. C'est ton avenir, tu le vois en Belgique, tu le vois en France, tu le vois ailleurs?
Eh bien, quand ça s'est terminé avec Pure FM, j'étais un petit peu dépitée. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir vers la France parce que les horizons belges me semblaient vraiment très, très étroits. Et puis là, maintenant, je me suis un peu ravisée. Je me suis dit, ils sont étroits parce que c'est de notre faute, en fait. C'est à nous, jeunes professionnels, plein d'idées et plein de moyens, de nous lancer et de créer des choses. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et donc là, je suis plus dans une logique de créer des choses ici, sur place, que d'aller en France pour essayer de forcer, de mettre le pied dans la porte.
Il me reste deux questions.
Vas-y.
Puis après, on arrête. Une autre question qui vient d'Internet qui demande, est-ce que tu as un tabou dans ton humour, un sujet que tu refuses d'aborder? Par principe. Je veux dire, il y en a qui vont dire, tu n'as jamais parlé, on va dire, du prophète Mahomet. Fait, ouais, mais si j'ai pas de vanne, et je vois pas pourquoi j'en parlerais. Le but, c'est pas, je veux dire, t'en parles dans le vide. C'est si tu as envie de le faire et que tu le fais pas, ça, c'est un tabou. Si t'as rien à dire, je veux dire, moi, j'ai jamais parlé des carottes. C'est pas que j'ai un tabou sur les carottes, c'est que j'ai rien
Ça t'intéresse pas. Non, j'ai pas de tabou. Par contre, il y a des trucs que je trouve pas marrants et donc que j'utiliserai pas.
Oui, mais parce que ça te fait pas rire, c'est pas un tabou, ça. C'est une question que ça te fait pas rire.
Par exemple, les blagues de cul, ça me fait pas rire. Je trouve pas que le cul soit quelque chose de marrant. Et je trouve ça triste que le cul soit quelque chose de drôle.
Pourquoi?
Parce que, je sais pas, ça nous renvoie à une espèce de cours d'éducation sexuelle en deuxième primaire. On fait comme ici, on rend des nichons.
Et tu penses que c'est justement une question?
C'est parce que les gens sont gênés. Enfin, je sais pas, je crois que le cul, c'est drôle parce que. Enfin, les gens trouvent ça drôle parce que, parce qu'il y a un malaise et qu'on a l'impression de briser un énorme tabou en disant bitcoin nichon. Moi, ça me fait pas du tout marrer.
Alors qu'à l'inverse, si tu prends ça trop sérieux et que tu n'es pas capable de te marier un peu avec le sexe, c'est aussi décevant. Ça veut dire que tu as une espèce de pression de la performance et de la perfection qui fait que tu n'as pas de plaisir non plus.
Ah oui, non, mais je n'estime pas qu'il faut prendre ça trop au sérieux. C'est juste que...
Le fait que le mot soit aussi tabou, que ça soit drôle parce que ce soit choquant,
oui,
voilà. C'est ça que tu trouves un peu naze.
Ouais, ça. Donc, je fais pas de blague de cul. J'ai pas l'impression d'avoir de tabou. Non. Non, j'ai l'impression d'avoir, justement, dans mes chroniques j'aime pas, essayer de tout tester. Tester tous les sujets sans aller vraiment très loin, parce que c'est des chroniques sur une radio de service public, pour un grand public, pour un large public.
Et t'es pas plus grand seigneur. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, regardez comment il va loin. » Mais si tu vas loin, tu sais, moi aussi, je peux faire la blague la plus trash au monde impliquant le sida, le prophète Mahomet, Jésus et deux bébés, là. Ça fait pas de moi un dieu. Si t'es drôle en le faisant ça... Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jim Jeffries, par exemple, qui va faire... il fait des blagues sur le sida, sur le fait que le sida, pour l'instant, il l'a pas. Donc, il pense que le sida, c'est une grosse conspiration parce qu'il dit « Il y a personne dans le monde qui a plus fait quelque chose pour avoir le sida que moi. » Donc, si je ne l'ai même pas un tout petit peu, c'est que ça n'existe pas. Et c'est dommage parce que je pourrais utiliser un peu de sida comme régime pour l'instant. Et je veux pas être trop maigre, mais mettons... Freddie Mercury 2 mois avant sa mort mère. Mais tu vois qu'il il le fait pas pour être choquant, il le fait parce qu'il trouve ça débile de faire des blagues là-dessus. Parce que moi, une des blagues qui me fait le plus rire, c'est une blague sur les gros, mais c'est pas une blague sur les gros. Les gros sont la prémisse, mais j'ai jamais trouvé ça drôle, moi, de faire des vannes sur les faibles. Quand je vois Laurent Ruquier qui fait des blagues sur Loana, ah oui, c'est super marrant qu'elle ait fait 2 tentatives de suicide, qu'elle soit grosse aujourd'hui. Des blagues sur Franck Ribéry, ah, qu'il y a un accident puis qu'il a la gueule déformée, c'est super. Je trouve ça minable. Et puis c'est un réflexe, et je l'ai fait plein de fois malheureusement, mais c'est un réflexe d'aller taper sur du plus faible. Mais taper sur du plus faible quand t'es humoriste, c'est comme taper sur un plus faible quand t'es boxeur. Ça a zéro, je trouve, ça a zéro mérite, sauf si c'est rigoler du fait que tu faussement tapes sur un faible. Ouais. C'est comme, je vais rire d'une blague raciste si je sais que la personne n'est pas raciste et qu'elle le fait d'une certaine manière. Moi, une blague sur les gros qui me faisait rire, c'est « Hey, y a-tu quelque chose de plus triste qu'un gros qui a une belle face? » C'est comme « Ouf, quel gâchis! » Non, pire, une grosse qui a une belle face, qui maigrit et puis qui perd sa belle face. Hey, c'est comme genre, t'as aucune chance de t'en sortir. Ça me fait rire, ça me fait pas rire parce que, ah oui, c'est drôle, les gens qui ont du surpoids, ça me fait rire parce que d'imaginer quelqu'un qui dit ça...
Mais les blagues trash ne sont drôles que quand elles ont plusieurs niveaux de lecture. Dire juste violer ta mère avec une lame de rasoir avec du sida dessus, c'est pas marrant. Ah, par contre, non, tu trouves ça marrant?
Non, c'est juste que le fait que tu réussisses à penser à ça dans la définition de Black Trash dans la seconde est vachement inquiétant. C'est comme si tuer ta mère, avec, c'est violer ta mère avec une lame de rasoir.
Oui.
C'était pas assez. Il faut...
Moi, non.
Où est-ce que tu trouves du sida à mettre sur la lame de rasoir?
Je sais pas, dans une poubelle ou quoi?
Dans une poubelle? Dis, ça, ça va dans les plastiques, ça, ça va dans les PMC. Non, ça, c'est dans la poubelle sida, ça. Ça fait combien de fois
que ça? Ça aurait été plus marrant si tu avais dit ça va dans les sida. On va couper ça au montage.
Je vais te couper au montage au complet.
Oui, ben ça, je sais bien. Je sais bien que cette émission est juste pour te mettre en valeur, toi.
Ben écoute, je sais plus quoi faire pour me mettre en valeur, moi. Et dernière question, c'est, j'ai envie que tu racontes parce que je trouve que l'anecdote est super. C'est une des personnes qui fait le plus l'unanimité auprès des critiques, Gaspard Proust, que t'as interviewé. Et j'aimerais commencer à raconter l'anecdote avant, quand tu m'as dit « Dan, je vais interviewer Gaspard Proust, je sais pas trop, est-ce que t'as des idées de questions? » Et je me souviens d'avoir entendu des gens qui avaient dit « Le problème avec Gaspard Proust, c'est qu'il est comme il est dans la vie comme il est sur scène. » Donc, il est assez désarçonnant. Et toi, tu t'étais dit, et d'ailleurs, le papier est dans le Focus Vif, mais mm-hmm. il est encore là, le Focus Vif? Il est jusqu'à quand?
C'est le Focus Vif de...
Et il est sur Internet
d'avant.
Ou pas?
Je ne sais pas.
Ok, donc finalement, si vous voulez le papier, appelez Myriam, elle va vous envoyer un message à Myriam sur Facebook, elle va vous le copier-coller.
Je vous enverrai le PDF.
C'est ça. Et tu l'avais rencontré, et tu dis, des gens qui sont un peu pas concernés ou un peu à côté de la plaque, j'en ai fait plein, je suis sûr que je vais réussir à le craquer finalement.
Ouais.
Et l'interview en soi m'intéresse moyennement, mais raconte en bref, c'est surtout ce qui s'est passé après que je trouve qui est super intéressant.
Interview que j'ai vécu comme un échec. Type pas concerné, je l'intéressais pas du tout. Bon, je dis pas que je suis extrêmement intéressante, mais j'avais quand même essayé de trouver des questions qui sortaient, à mon avis, un peu de l'ordinaire, de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Oh, merci pour le verre de vin. C'est très mignon.
On vient d'échanger les verres, je viens d'obtenir un verre vide contre un verre plein. Mais j'avais bu un peu avant d'arriver.
Ah, c'est ça. Et donc, interview, il est pas là, il s'en fout. Je sais pas, ça m'énerve. Et donc, pendant un quart d'heure...
Mais pas méchamment, c'est juste qu'il
Non, pas méchamment.
Il répond tes questions,
là,
mais...
Juste un peu autistiquement, comme ça. Ouais. Et donc je ne pose que des questions pour briser la glace. Et puis, au moment où j'essaie de rentrer dans le vif du sujet, l'attaché de presse entre dans la pièce, il dit, l'interview est terminée. Gaspard Proust fait, mais il n'y a pas moyen de continuer un peu.
Alors que c'est quand même le signe qu'il se fait pas trop chier. Quoi.
Oui, alors que moi, j'étais contente, limite, qu'on vienne mettre fin à mon calvaire. Bon, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre avec ces réponses, ces non-réponses, parce qu'il me répondait par monosyllabe, par soupir. Bref, l'interview se termine. J'ai passé un horrible moment. Je rentre chez moi, mais un peu dévastée. Honnêtement, je pense que ça fait partie de mon top 3 des plus horribles interviews de ma vie. Pourtant, j'en ai déjà fait quelques-unes.
Des horribles ou des interviews?
Des interviews. Des interviews. J'en ai déjà fait des chiantes, mais des horribles. Non, mais je pense même que c'était ma plus horrible interview, en fait. Et donc, je suis un peu choquée, quand même. Je suis même un peu... assez blessée, en fait.
Vexée, en disant, je suis quand même une bonne journaliste, et là, j'ai échoué, quoi.
Oui, complètement. Et puis, je tweet... que je vais rendre de l'interview de Gaspard Proust et que j'ai perdu au moins 2 ans d'espérance de vie parce que j'ai dû lancer toutes mes forces dans la bataille. Et je mets un statut Facebook plus ou moins du même tonneau. Et puis je vois que Gaspard Proust me suit sur Twitter et me fait une demande d'amis sur Facebook. Je dis, bon, merde, qu'est-ce que je fais?
Il te suit sur Twitter pour tes excellentes qualités journalistiques, j'imagine.
Oui, mais bien sûr.
C'est ton Twitter, tu sais en passant? @me_l.
@my_l. Donc Gaspard Proust me suit sur Twitter. Je lui dis, bon, courage. Je ne vais pas virer mon tweet parce que la célébrité dont il est question me suit.
Ce qui est un réflexe très local, c'est-à-dire on fait des blagues sur l'alcoolisme de Britney Spears, mais quand vient le temps faire sur l'alcoolisme de Benoît Poulvorde, on se cache tous la bite entre les deux jambes parce qu'on risque de le croiser dans une soirée où il y aura du cava gratuit.
C'est ça. Là, pour le coup, j'ai essayé d'avoir un peu de couilles et donc j'ai laissé mon statut Facebook aussi, je l'ai accepté sur mon mur. Et donc, visiblement, il m'a envoyé un message sur Twitter en me disant ne vous inquiétez pas, c'était formidable. Et donc, je me dis quel petit con, il se fout de ma gueule. Et donc, j'ai répondu à un truc un peu cinglant.
Oui, parce qu'il faut savoir, t'es une des personnes que je connais qui a le plus grand esprit de compétition conversationnelle. C'est-à-dire que tu vois la conversation comme un combat de boxe quand ça s'y prête, et t'adores fighter.
Ouais.
Et je suis certain que c'est déjà arrivé dans tes relations, que ce soit en amitié ou en amour, que tu te faisais un peu chier et que tu as volontairement provoqué de la
Bah bien
fight.
sûr, bah comme tout le monde, non?
C'est un réflexe que je connais uniquement chez les belles filles.
Ah oui. Ah oui.
Donc,
Bon.
c'est un truc que tu as sûrement souvent fait dans ton passé.
Oh, t'es vraiment une bouse, mon vieux. Quelle grosse merde. Bon, ouais, je termine cette anecdote à Gaspard Proust qui m'envoie aussi un message sur Facebook en me demandant, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous attendiez de cette interview? Moi, je trouvais ça très bien. Vous avez sans doute eu l'interview la plus personnelle de ma part.
Et qui dit qu'est-ce que le journaliste veut pour qu'est-ce que le journaliste a besoin pour pouvoir imaginer que c'est une bonne interview, je dois lui montrer des blessures d'enfance. Donc un peu une réaction encore une fois de
De diva.
ben, c'est ça? Et ce que tu lui réponds et toi tu au lieu de lui dire ah non monsieur Pro c'était très bien, tu choisis de fighter. Ben pas seulement
Mais non,
fighter
je vais
mais
pas
de montrer
fighter.
que t'es pas genre une groupie en tout cas que t'as jamais vu son spectacle en soi.
Non.
T'as jamais vu le film non
Non,
plus
la première fois que j'ai regardé des choses concernant Gaspard Poutre, c'est quand j'ai su que j'allais l'interviewer 3 jours avant.
Donc
Donc,
c'est pas comme si ça, tu te sentais pas inférieur.
Non, mais non. Mais c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que je suis venue en croyant trop que c'était. En croyant prétentieusement pouvoir m'adresser à mon égal, et alors que
Lui s'en foutait
lui s'en
clairement.
foutait,
Et même il
voilà.
l'a dit, j'ai pas besoin de faire
Ouais.
d'interview, je sais pas pourquoi je me fais chier à m'y prêter, là.
Et donc, on a un peu fighté par messagerie Facebook où je lui expliquais que c'était vraiment dommage qu'il ait une attitude pareille. Que. Enfin, voilà, un peu, j'essaye un peu de le culpabiliser par rapport à ça parce que ça m'énervait. Il est un peu payé pour tous les autres qui ont des attitudes de merde avec les journalistes parce qu'ils rencontrent de temps en temps des journalistes cons, forcément ça existe. Mais à force de les mettre tous dans le même panier. Alors que certains font bien leur boulot consciencieusement, je ne sais pas pourquoi je
Mais
fais de
c'est
la
quoi? C'est le
promo.
trois quarts des interviews que tu pourrais écrire avant de rencontrer l'artiste?
Ouais, bah oui, évidemment. Et donc on s'est envoyé, je sais pas, 5-6 messages chacun. Et puis moi j'ai clôturé le truc parce que ça tournait à la joute stérile. Et puis il y a 2-3 jours, il m'a envoyé un message en me demandant de lui envoyer mon bouquin.
Et tu lui as demandé 15 euros?
Mais non, même pas. Non, là, pour le coup, j'ai fait la petite zizi. J'ai dit, mais bien sûr, avec plaisir.
Et ça te ferait plaisir maintenant de l'interviewer. Parce que
Mais oui, bien
ton échange
sûr.
Facebook était plus intéressant que l'interview que tu as fait avec
Ouais,
lui.
ouais,
Donc
ouais.
maintenant,
Oui.
ça serait intéressant.
Mais oui, mais par contre, je pense que lui est un peu, comment dire, incorruptible et difficilement manipulable. Enfin, je
Ouais.
sais pas très bien comment l'exprimer, mais je ne suis pas sûre que l'interview sera meilleure maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il s'y prêtera avec plus de bonne volonté maintenant qu'avant.
Mais tu sais quoi, vous pouvez suivre Myriam sur Twitter, twitter.com/my_l. Sur Facebook, tu acceptes les gens ou pas? Non,
Non.
tu n'as pas de page fan, c'est une page perso.
Ouais.
Et donc
Moi,
voilà.
j'accepte que les gens que je connais dans la vraie vie.
Et on peut t'envoyer des mails à une certaine manière si on veut t'écrire, on peut le faire d'une façon. Bon, on peut envoyer
Oh
des mails sur le Facebook,
bon,
justement.
ouais, parce que le Facebook est ouvert.
Est ouvert pour les mails. Le livre, donc Les bobos, la révolution
Oui,
sans effort.
achetez-le, c'est pas cher, 9,95 €.
Et c'est toi qui as voulu imposer le prix le
Non,
mois
moi,
sorti?
si ça n'était qu'à moi, j'aurais mis à 30 euros,
Version
mais.
électronique, c'est pas encore
Ah,
confirmé.
version électronique, si, c'est confirmé, ça sortira en version électronique.
Cool, bah parfait. Donc tu vas mettre tes infos, j'imagine, sur Twitter, sur Facebook.
Oui, évidemment, je ne parlerai que de ça dans les prochains jours.
Tu vas être un peu obsédé, tu vas mettre
Oui.
le lien de toutes les fucking interviews que tu vas faire dans tous les médias.
Non, ça non.
On dit ça, mais après ça, on est quand même tenté parce qu'on est content de voir les stats augmenter.
Quoique pour mon cloud, ce serait peut-être bien.
T'as un clone à combien?
72.
Parfait, Myriam Leroy, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Je sais que ça te stressait, je sais que t'as pas envie, je sais que tu le fais à moitié pour faire plaisir, mais c'était chouette de pouvoir pour une fois s'asseoir et j'ai jamais compris pourquoi les magazines n'avaient pas fait des
Moi
longues
non plus,
interviews avec toi.
moi non plus, vraiment, ça me dépasse.
Shooting photo, tiens, on va finir là-dessus. Shooting photo, t'accepterais? Jusqu'où t'es? Déjà, je suis certain. Moi, si on nous offrait de partir à l'île Maurice faire un shooting photo à deux, t'accepterais ou pas?
Bien sûr que non.
L'île Maurice.
Bah, si c'était pour un journal slovaque qui ne verrait jamais le jour ici, peut-être, mais.
C'est bon, et si on tente de partir tout seul à l'île Maurice?
Bah non.
Ok, tu me rassures, je serai pas obligé de te taper ce soir.
Mais non, je suis complètement incorruptible.
Toi?
Bah bien sûr.
T'es incorruptible sauf quand t'as envie d'être corruptible?
Exactement, comme tout le monde, non?
Merci beaucoup.